savoir sûr.
Bonjour, je suis Marie Guerrier. Bienvenue dans ce podcast de la rédaction de RTL, Tout savoir sur l'évaluation des établissements scolaires. Taux estimé de réussite aux examens, taux réel de réussite, taux de mention, valeur ajoutée. Les résultats des collèges et lycées sont passés au crible avec cette question. Que valent les classements publiés partout dans les médias? Ils refleurissent avec le printemps, chaque année, en mars. Même les influenceurs sur les réseaux sociaux s'y mettent.
Il est donc l'heure de vous révéler ce matin notre classement, le classement des meilleurs lycées et des meilleurs collèges de France. Le classement BFM TV, à partir d'un certain nombre de données, des données qui sont publiques.
Les meilleurs lycées de France sont-ils publics ou privés? Le palmarès du Figaro, basé sur des données de l'éducation nationale, est sorti ce matin.
Cette compétition pour les premières places écarte quasiment totalement la province. Et la lutte se concentre entre établissements parisiens ou franciliens, une centralisation impressionnante.
Tous les ans, un classement des lycées est publié. Donc on a vraiment les meilleurs lycées de France. Et j'ai ici, sous les yeux, le top 5 des meilleurs lycées de France. Spoiler, tous ces lycées sont situés dans la ville de Paris.
Et c'est avec toi, Victoria, tu nous révèles en exclusivité le classement des meilleurs lycées dans le Rhône.
Ce palmarès en partenariat avec le magazine L'Étudiant est sur les premières marches du podium. Ce sont les établissements privés catholiques qui tirent leur épingle du jeu.
Voici les 5 pires lycées de France. Le classement des lycées 2023 a été publié le 29 mars dernier dans Le Parisien.
Pour les départager, il y a forcément des critères. Le taux de réussite au bac, de mention au bac, ou encore de la diversité du profil social des élèves.
Le lycée d'Astrée est classé comme le meilleur lycée de la Loire par l'éducation nationale avec 100% de taux de réussite au baccalauréat.
Ce lycée est le meilleur de France.
Bien sûr, je suis content. Qui ne serait pas content d'être dans le meilleur lycée de France ?
Le meilleur lycée, le pire palmarès, compétition, en voilà une drôle de manière de parler des établissements scolaires en France. Pour remettre un peu d'objectivité dans tout ça, j'accueille dans ce studio d'RTL Magda Tomasini, directrice de l'ADEP, en charge des études et des statistiques à l'éducation nationale. Bonjour.
Bonjour.
À vos côtés, Didier Georges, proviseur de lycée professionnel, Jean Drouan, à Paris. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi élu du SNPDEN, le principal syndicat des personnels de direction dans l'enseignement public. Et puis Guillaume Prévost nous a également rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué général du think tank Vers le haut, consacré aux jeunes et à l'éducation. Je salue également Nerissa Emani, journaliste éducation à RTL. Bonjour Nerissa.
Bonjour.
Avec vous, on ira tout à l'heure à la rencontre d'élèves, de professeurs pour entendre ce qu'ils ont à nous dire sur la valeur ajoutée de leur établissement. La valeur ajoutée, Magda Tomasini, voilà un terme qu'il faut expliquer. À l'ADEP, vous calculez cette valeur. À partir de quoi? Et puis, ça montre quoi des établissements?
Alors, la valeur ajoutée, nous la calculons sur un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, sur le taux de réussite, la valeur ajoutée d'un établissement, c'est la comparaison qu'on fait entre le taux de réussite observé et celui attendu au regard des caractéristiques sociales, scolaires de l'établissement. C'est-à-dire qu'on prend en compte, pour calculer ce taux attendu, la composition sociale, le pourcentage d'élèves en retard, la part des filles, les résultats scolaires à l'entrée dans l'établissement. Et une fois qu'on a pris tous ces éléments, on calcule un taux attendu et on le compare au taux observé. Et la différence entre le taux observé et le taux attendu, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée.
La valeur ajoutée, elle peut être de zéro?
Oui, elle peut être de zéro. Ce qu'elle montre juste, c'est que le taux de réussite, par exemple, de l'établissement, est conforme à ce qu'on pouvait attendre au regard des caractéristiques de cet établissement.
Et ça monte jusqu'à combien, la valeur ajoutée?
Alors, ça peut monter jusqu'à 20 points. Mais de toute façon, elle ne peut pas être immense, puisqu'un taux de réussite ne peut pas dépasser 100%.
Alors, une grosse valeur ajoutée, ça veut dire quoi? C'est que l'établissement a réussi à faire quoi?
Alors, tout dépend. En fait, on le calcule sur un certain nombre d'indicateurs. Si on prend le lycée, on va regarder les taux d'accès, c'est-à-dire la part des élèves qui sont rentrés en seconde et qui vont réussir à aller jusqu'en terminale. Donc, on va regarder ces taux d'accès. Et donc, une valeur ajoutée positive sur le taux d'accès, ça montre un bon accompagnement des élèves par l'établissement. Ensuite, on a le taux de réussite au baccalauréat. C'est aussi un bon accompagnement des élèves vers la réussite lorsque la valeur ajoutée est positive. Mais on peut prendre aussi en compte la valeur ajoutée sur les mentions. Et là, ça montre que l'établissement a plus que la moyenne accompagné ses élèves vers les études supérieures, puisqu'on sait que la réussite dans les études supérieures est très liée à l'obtention d'une mention au baccalauréat.
Toutes ces données, elles sont publiques?
Toutes ces données sont mises, on les met en libre accès sur l'open data du ministère de l'Éducation nationale.
Alors, il faut préciser une chose importante, Magda Tomasini, l'Éducation nationale, à partir de ces données, ne publie aucun classement.
Ah non, surtout pas. Parce que, justement, on voit bien que l'accompagnement des élèves est multiforme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se concentrer sur un seul indicateur. Donc non, on n'est pas du tout favorable à la publication d'un palmarès. Ce n'est pas un palmarès, c'est une présentation objective des caractéristiques de l'établissement dans l'accompagnement des élèves.
Donc les classements, c'est les médias qui les font, on en reparlera tout à l'heure. La valeur ajoutée, c'est donc la capacité des établissements à accompagner leurs élèves, à les faire progresser, c'est ce que vous nous dites, à amener le plus grand nombre vers la réussite aux examens, puis les études supérieures. Nérissa et Mani, vous êtes allées pour RTL dans un lycée de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Sa valeur ajoutée cette année est de 16 points, c'est un beau score.
Oui.
Et comment on l'explique concrètement, ça se passe comment sur place?
Bien, je vais vous donner plusieurs exemples, mais dans ce lycée polyvalent qui accueille des élèves de la 3e au BTS, le secret de la réussite vient d'avoir des petits effectifs en classe, notamment dans les matières professionnelles. Les jeunes sont même suivis par deux professeurs dans le même cours. Michel Chauvet enseigne les techniques professionnelles en stérilisation.
Aujourd'hui, une classe chez nous, c'est 24 élèves. On travaille très souvent par groupe de 12 et aussi sur un grand nombre d'heures. Donc ça nous permet de pouvoir individualiser des tas de choses, donc le suivi de l'élève, éventuellement les lieux de stage.
Il y a aussi, Nérissa, toute une stratégie mise en place pour éviter le décrochage scolaire.
Oui, à commencer par la cantine. Ça peut paraître surprenant, mais elle a été entièrement rénovée il y a 2 ans avec une toute nouvelle carte imaginée par le chef cuisinier du lycée.
On fait plus de maison, on fait plus de frais, donc ça fait un self d'adulte en fait, et puis un self dit école. Le repas du midi est toujours important parce que c'est le repas que vous attendez le plus dans la journée, donc si vous mangez bien, automatiquement vous avez plus de réussite.
On n'y pense pas en priorité, mais une bonne cantine améliore le climat scolaire, évite aux élèves de se répandre dans les quartiers alentours sur la pause déjeuner et les dissuade de sécher les cours l'après-midi. Et puis au niveau pédagogique, le lycée a aussi mis en place un groupe de prévention du décrochage scolaire, prof, CPE ou encore psychologue propose un suivi personnalisé pour chaque élève qui risque d'abandonner, comme l'explique Ferhat Saïchi, enseignant.
On met en place un dispositif qui leur permette de revoir soit une réorientation, soit à travers des stages d'insertion ou des stages d'immersion qui leur permettent un petit peu de découvrir un petit peu le métier.
Et sachez aussi que dans ce lycée, ça peut paraître évident, mais ce n'est pas le cas partout, aucune période de stage n'est collée aux vacances scolaires pour que les élèves reviennent en cours et fassent le bilan. Ça limite aussi le décrochage.
Et ces dispositifs, ils ne sont pas forcément nouveaux. On peut les voir dans d'autres établissements. Ils sont à disposition des proviseurs, des principaux. Encore faut-il les mettre en place.
Oui, c'est ça aussi le secret d'un établissement qui réussit. Un proviseur impliqué qui utilise les dotations horaires au service de l'accompagnement des élèves. Florent Boron a monté un nouveau projet d'établissement à son arrivée dans le lycée il y a 2 ans.
On a réfléchi collectivement sur la redistribution des moyens, donner plus d'heures aux élèves de terminale pour pouvoir les accompagner et faire un suivi personnalisé. Par exemple, sur un conseil de classe, on va évaluer que pour certains élèves de grandes difficultés en français, par exemple, une enseignante va prendre quelques élèves, on va dédier des heures spécifiquement pour ce groupe. C'est pas un problème de moyens, c'est un problème aussi de temps et d'engagement.
Avec des résultats probants dans cet établissement, les élèves viennent en majorité de milieux défavorisés, ils vivent dans des quartiers prioritaires et ils ont un parcours scolaire difficile, en tout cas ils arrivent avec un parcours scolaire difficile. Le taux de réussite au bac attendu était de 74%, et bien figurez-vous que 3 ans plus tard, le taux de réussite aux examens est de 90%.
Et donc une valeur ajoutée de 16 points dans cet établissement scolaire, ce lycée des Hauts-de-Seine. Didier Georges, j'entends que chef d'établissement, quel regard vous portez sur la valeur ajoutée? Alors on dit IVAL pour les lycées, IVAC pour les collèges. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, les indicateurs de valeur ajoutée, ils sont objectivés par des critères parfaitement définis. L'ADEP, effectivement, établit ce nombre de points, parce qu'on parle de points, c'est plus 18 points ou moins 4 points. Et c'est fait très objectivement. Tous les indicateurs de l'ADEP sont des indicateurs objectifs. Ce qui est tout à fait... non objectif, c'est les classements établis par les médias en fonction de ce qu'ils ont envie de retenir, et on fait dire aux chiffres absolument ce qu'ils veulent dès lors qu'on retient certains critères ou pas, ou d'autres. Et puis c'est très facile après d'avoir un classement au-delà même du débat sur l'idéologie que parfois certains établissements privés peuvent avoir. Hein, moi, je suis un grand défenseur de l'école publique, donc je suis l'école de tout le monde, sans distinction, ni sur le niveau à l'entrée, ni sur le niveau à la sortie. On n'élimine pas les élèves parce qu'ils sont pas bons. On ne choisit pas les élèves en fonction du portefeuille de leurs parents. On ne choisit pas les élèves en fonction de leur niveau scolaire d'entrée. On choisit les élèves que l'État nous affecte.
Dans votre carrière, vous avez été proviseur de lycée à Aubervilliers, vous avez été principal d'un collège à Paris, vous êtes aujourd'hui à la tête d'un lycée pro. Des classements, vous en avez connu, hein, et ça vous a souvent agacé.
Ça m'a toujours agacé, à vrai dire. Je peux même vous révéler que quand j'étais proviseur à Aubervilliers, nous étions extrêmement bien classés par un média et pas du tout bien classés par un autre, la même année, évidemment. Hein, je vous parle exactement de la même année. Donc, on a été dans le top 10 à plusieurs reprises entre 2013 et 2017 avec ce lycée. Et puis, on n'était même pas dans le top 100, et même le top 200, si on prenait un autre média, un autre journal, dont peut-être, j'allais dire, l'idéologie sous-jacente amenait ce média à ne pas retenir les mêmes critères, et évidemment le 93 pouvait se retrouver assez défavorisé sur cette question.
Oui, les établissements publics sont mis en concurrence avec les établissements privés, souvent dans ces classements. Est-ce que c'est un problème, Guillaume Prévost? Vers le haut, vous menez des réflexions depuis 2015 sur l'éducation. On entendait dans les commentaires, les lycées parisiens trustent les premières places, les lycées privé trust les premières places. Qu'est-ce qu'on cherche avec tous ces classements? Les parents ont envie d'avoir des classements comme ça?
Ce qui caractérise les travaux de Verlo, et ce sera le sens de mon intervention, c'est qu'il ne faut pas isoler la question scolaire des questions sociales ou des questions d'éducation en règle générale. Les parents, ils éduquent leurs enfants de 0 à 20 ans. Aujourd'hui, la sortie moyenne des enfants du système scolaire, c'est 21 ans et demi. 50% d'une génération qui accède au SUP. Donc en fait, il y a un vrai enjeu de construire un parcours, d'accompagner son enfant tout au long de sa progression, du point de vue de ses apprentissages scolaires, mais également du point de vue du bien-être. On sait aujourd'hui toute l'importance du bien-être des enfants, des inquiétudes qui pointent notamment au regard des enjeux de santé mentale. Si on regarde l'école au regard de ses enjeux éducatifs au sens large, on se rend compte qu'il y a un problème de défiance, parce qu'il n'existe pas suffisamment de garanties. On est dans un monde qui est très anxiogène pour les parents comme pour les enfants. Il y a une étude récente que je trouve très intéressante de la Revue française de sociologie qui montre que les enfants eux-mêmes au collège choisissent leurs amitiés dans leur milieu social, notamment quand s'approche le coup près de l'orientation. Donc quelque part dans une société qui est très angoissée, notamment vis-à-vis des grandes étapes de l'orientation, la troisième, le SUP, il y a un besoin d'informations, de garanties, de lisibilité. Or aujourd'hui notre système éducatif n'offre pas ces garanties de lisibilité. La compréhension qu'ont les parents même du système éducatif est extrêmement variable en fonction de leur situation. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une fuite vers le privé notamment, mais une fuite globale vers des établissements qui offrent des garanties, qui sont pas forcément meilleures du point de vue éducatif, mais qui offrent ces garanties. 15% des enfants dans le primaire scolarisés dans le privé, c'est 22% au collège, c'est 25% des enfants, des jeunes, dans l'enseignement sup. Donc on voit qu'au fur et à mesure que les jeunes vont vers la sélection, ils choisissent des garanties en termes d'information.
Et Magda Tomasini, est-ce qu'il faut apprendre aux parents à regarder les informations qu'on leur donne sur les établissements avec un autre œil, pas se fier à des classements qui ont des biais, forcément?
Et c'est tout le travail de l'ADEP et d'une manière générale du service statistique public d'acculturer aussi le grand public aux indicateurs. Et puis c'est vrai qu'il est complexe, hein, cet indicateur de valeur ajoutée. Il est complexe, mais donc c'est tout un travail de l'expliquer. Et d'ailleurs, nous sommes là pour ça, je crois, aujourd'hui, notamment, mais pour montrer aussi qu'en fonction des attentes aussi qu'on a du système éducatif, on ne va pas non plus regarder le même indicateur.
Nérissa, on a envie d'entendre les élèves aussi parler de leur établissement scolaire. Au lycée Anatole France de Colombes, dans les Hauts-de-Seine, comment ils jugent leur établissement, alors qu'il y a une forte valeur ajoutée? Je ne sais pas d'ailleurs s'ils le savent, cette notion, s'ils la connaissent, cette notion de valeur ajoutée.
Non, pas du tout.
Mais ils ont évidemment un avis sur leur établissement.
Oui, dès que je pose la question, on me répond que c'est un très bon lycée qui les accompagne beaucoup. Voilà d'ailleurs comment ces deux élèves de BTS le décrivent. Elle, qui ne pensait jamais arriver à ce niveau d'études, à leur entrée dans l'établissement.
Je suis arrivée en BTS, je ne pensais pas y arriver. Je n'avais pas de confiance en moi. Je pensais abandonner, vous savez. Les profs encouragent beaucoup. Ils nous prennent à part vraiment pour discuter de notre projet. Ils nous aident.
Pendant les vacances scolaires, si on n'arrive pas, on leur écrit, on leur envoie un mail. Ils nous sont toujours là à répondre tout de suite d'un coup. Même le week-end, c'est vraiment un bon lycée.
On m'a donné beaucoup d'exemples de profs qui accompagnent beaucoup les élèves, notamment en donnant du travail supplémentaire qu'ils corrigent ou en encourageant les élèves à venir dans des cours alors même que ce n'est pas leur classe, mais pour pouvoir se perfectionner.
Donc la valeur ajoutée, quand on en parle, c'est mettre le projecteur, Didier Georges, sur ce que proposent les établissements scolaires, sur leurs projets.
Il n'y a aucun doute que la valeur ajoutée, elle est impactée par un effet établissement. Vous évoquiez tout à l'heure la cantine, mais le bâti scolaire, par exemple, a un impact sur la réussite des élèves, on le sait aujourd'hui, je pense qu'il y a même eu des études qui ont été faites là-dessus. Évidemment, l'investissement des enseignants, et puis la dynamique en cours dans un établissement, que ce soit un collège ou un lycée.
Porté par le chef d'établissement, hein, beaucoup. Hein.
Oh, on va être modeste, on contribue à cette dynamique, parfois. Oui, il faut des conditions favorables, il faut de la confiance entre les équipes et leur direction, évidemment. Mais restons modestes, la cheville ouvrière de tout ce travail, ça reste les enseignants. J'aime beaucoup ce que vous disiez, madame, c'est-à-dire que globalement, on souligne bien à travers les témoignages que vous avez énoncés tout à l'heure, que les profs travaillent beaucoup et qu'ils travaillent bien. Et moi, je pense qu'on ne le dit pas assez, et notamment dans le public. Ce sont des gens extrêmement investis. Alors, je ne dis pas que dans le privé, ce soit le cas aussi, mais je pense qu'on ne le dit pas assez pour l'école publique. Le niveau d'investissement des enseignants est absolument remarquable.
Le chef d'établissement me disait d'ailleurs, pour en arriver là, tout le monde a dû faire plus. Est-ce qu'on est obligé aujourd'hui aussi de faire plus, de travailler plus pour avoir de tels résultats?
Il y a une pression des indicateurs, en fait?
Je ne crois pas qu'il y ait une pression des indicateurs. C'est un état d'esprit. Vous évoquez la question de la dynamique. Moi, je crois que c'est plutôt ça. C'est une relation de confiance. Mais elle est à tous les étages, cette relation de confiance. Elle est avec les familles, elle est avec les élèves, elle est avec les enseignants, elle est avec la direction. Elle est avec notre rectorat et nos inspecteurs d'académie. Donc, une fois que, j'allais dire, on peut rentrer dans un cercle vertueux. Je l'ai vécu à plusieurs reprises dans ma carrière. C'est vrai qu'on voit immédiatement les indicateurs s'améliorer. On voit immédiatement la plus-value augmenter et ça conforte les équipes dans cette dynamique et souvent ça les incite à faire encore plus. Ils s'auto-challenge.
Donc c'est pas une pression, c'est la dynamique.
Non, c'est pas une pression institutionnelle. En tout cas, je crois pas que les gens le ressentent comme tel. Je crois vraiment que c'est une forme de satisfaction du devoir accompli en fin d'année. Le simple affichage, comme le font beaucoup de médias, du taux de réussite au bac est un raccourci qui parfois ne veut pas dire grand-chose.
Pour l'ADEP, pour l'éducation nationale, toutes ces données, ça doit être des outils de pilotage, c'est ça l'objectif ?
Oui, l'objectif, c'est de restituer de l'information aux acteurs de l'éducation nationale, donc en premier lieu aux établissements. C'est extrêmement important que la communauté éducative, la communauté pédagogique ait une vision de son activité, en fait, hein, et qu'elle puisse voir sur quels axes elle peut travailler, sur quels axes c'est un encouragement aussi si la valeur ajoutée est très élevée. Donc ça fédère la communauté éducative. Ensuite, il y a d'autres acteurs qui sont destinataires de ces indicateurs de valeur ajoutée, les parents, les familles, le conseil d'évaluation de l'école également. Mais voilà, c'est un corpus qu'on partage tous ensemble, en fait, et les actions sont à la main des établissements et ça les aide, c'est une boussole pour eux.
Le chef d'établissement que j'ai interrogé le disait, on a les dispositifs en place et c'est une question d'investissement. Mais est-ce que c'est aussi une question de moyens et est-ce que vous avez tous les dispositifs à votre portée pour pouvoir faire progresser les élèves?
C'est assez inégal selon les académies, selon les politiques académiques et les priorités ne sont pas toujours les mêmes selon que vous êtes dans l'académie de Montpellier ou dans l'académie de Paris. Les priorités rectorales ne sont pas toujours les mêmes. Alors, il y a celles qui sont définies par le ministère, mais l'utilisation, l'usage et le déploiement des moyens est variable. Donc ça dépend tout à fait de la politique en cours. C'est très localisé en fait. Il y a des académies où on dispose de plus de moyens sur certains champs pédagogiques, et puis d'autres où on en aura moins. Évidemment, on ne lutte pas contre le décrochage scolaire dans la même amplitude dans le département de la Seine-Saint-Denis ou dans le département de Paris, parce que la population n'est pas la même, sociologiquement, parce que le niveau de décrochage scolaire n'est pas le même. Donc les recteurs font des choix aussi en fonction des indicateurs de leur académie que l'ADEP leur donne.
Et on adapte, j'imagine, au niveau des rectorats, les besoins.
Mais c'est absolument ça.
C'est à ça que ça sert. Quand on parle d'outils de pilotage, ça sert à ça aussi.
C'est à toutes les échelles, hein, c'est vraiment de l'établissement au, à l'académie, au département, au DAZN, et ensuite au national. Oui, c'est et on partage une information commune.
On regarde les indicateurs de l'ADEP et se dit que la priorité est peut-être celle-ci ou une autre. Mais c'est utile pour tout le monde. Ça, il n'y a aucun doute, en tout cas, sur l'intérêt de ces indicateurs.
On rebat les cartes chaque année, en fait. Parce qu'il y a des changements de population, ou effectivement, il y a un changement de stratégie de l'établissement, ou il y a une adaptation, une nouvelle offre. Donc, il y a, voilà. Donc, on rebat les cartes chaque année et on compare par rapport à une situation moyenne.
Quel biais, Guillaume Prévost, vous voyez, vous, dans ces valeurs ajoutées qu'on peut chaque année regarder, étudier, peut-être les comprendre mieux?
Moi, je dirais. La question est moins celle du biais que de l'information nécessaire dont ont besoin les acteurs pour faire des choix. Vous êtes sur un marché, il y a un marché scolaire, il ne faut pas s'en cacher. Et plus on s'en cache, plus on le subit. Donc ce marché, il existe, les parents font des choix, ils orientent avec les jeunes, ils font des choix d'orientation, et ça va jusqu'aux études supérieures. Aujourd'hui, il y a quand même des faits patents qui montre que ce dont les jeunes ont besoin, c'est d'être accompagnés, notamment les jeunes issus de milieux les plus populaires. PISA 2022, là, très récemment, a été largement commenté à l'aune de la chute en mathématiques. On est passé complètement à côté de la partie la plus intéressante et qualitative de l'étude qui disait qu'est-ce qui caractérise les systèmes éducatifs aujourd'hui les plus robustes, les plus performants. C'est 1. Les enseignants accompagnent individuellement les élèves. 2. Les parents sont impliqués dans la réussite des enfants, en particulier pour les familles les plus populaires. Et 3. On utilise bien les outils numériques. Sur ces 3 critères, les parents, l'accompagnement individualisé, les outils numériques, la France est dans les 10% des pays les moins performants. Notre école ne pêche pas par organisation ou par agrégat ou par idéologie. Notre école pêche par un accompagnement humain insuffisant de nos enfants, et c'est particulièrement le cas au collège, les familles le savent bien. Et c'est pour ça que les familles vont chercher des établissements dans lesquels ils retrouvent cet accompagnement.
Ou ils pensent le retrouver, parce que c'est dans les classements, on ne voit pas toutes ces choses-là.
En tout cas, dans lesquels ils le cherchent. Il y a une inquiétude des familles. Donc il faut apporter aux familles l'information dont ils ont besoin pour faire les bons choix. Les IVAL, à mon avis, c'est un premier pas dans la bonne direction, mais comme l'a dit justement Mme Tomasini, maintenant il faudrait probablement aller sur une évaluation des différentes pratiques pédagogiques, notamment en termes d'accompagnement. Je pense que c'est ça qui manque. Et si on est capable, dans les prochaines années, de montrer tel établissement, il marche bien parce qu'on a mis en place de la co-intervention, parce qu'il y a une cantine où c'est valorisé, parce qu'on a des éducateurs scolaires qui accompagnent les enfants dans leurs difficultés, alors oui, là, on verra les parents faire des choix éducatifs pertinents et compatibles avec la dimension universelle, sociale et républicaine de notre école.
Pour conclure, est-ce qu'on peut dire que la valeur ajoutée pour les parents, si ça doit être un indicateur, c'est le signe, à minima, d'un bon accompagnement des élèves, Didier Georges ?
Non, c'est pas seulement cela, mais en tout cas c'est vrai, oui, c'est un vrai signe d'accompagnement, de suivi individualisé, de remédiation quand les élèves ont des difficultés, de mise en place par exemple de groupes de besoins en fonction des difficultés que les élèves aujourd'hui peuvent avoir dans les enseignements. Donc oui, c'est ça, c'est exactement ça, et c'est à travers l'investissement des enseignants, à travers les moyens dont on dispose aussi, qu'on peut évidemment mettre en place toutes ces dynamiques pédagogiques positives qui permettent l'amélioration des résultats et donc limiter le décrochage et donc avoir des indicateurs de plus-value intéressants.
Magda Tomasini, c'est ce que vous diriez aussi en conclusion, que ce qu'il faudrait retenir de la valeur ajoutée, c'est l'accompagnement, la manière, la réussite à faire progresser.
C'est multifactoriel.
Oui.
Voilà, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète encore. Effectivement, il y a la dimension décrochage, lutte contre le décrochage, accompagnement vers la réussite, préparation aux études supérieures. Donc, il y a toutes ces dimensions-là. Et effectivement, lorsqu'on a des indicateurs très, très positifs, nous, on ne fait que des statistiques. Donc, on ne peut pas aller voir la diversité des actions qui sont menées au quotidien par les équipes pédagogiques. Et il faut aller voir ces expériences sur le terrain, comme vous l'avez fait dans votre reportage.
Et voir des portes ouvertes. Il faut peut-être inciter les parents à aller un petit peu se renseigner sur le terrain, Guillaume Prévost, si on veut conclure. Il ne faut pas se fier juste à ce qui est publié de classements qui peuvent induire en erreur. On va peut-être se poser la question, d'ailleurs, faudrait-il interdire carrément ces classements et puis aller voir concrètement ce qui se passe.
Alors moi, je dirais aller voir, mais surtout pas interdire, parce que le mot clé, on a tous beaucoup parlé, c'est un mot qui est beaucoup dans le discours public, c'est la confiance. Le vrai défi auquel notre système éducatif fait face est celui de faire confiance.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce podcast Tout savoir sur l'évaluation des résultats des collèges et lycées, leur valeur ajoutée. Magda Tomasini de la DEP, Didier Georges, proviseur de lycée et membre du SNPDEN, Guillaume Prévost du think tank Vers le haut et Nerissa Emani, spécialiste éducation sur RTL. Merci à Pierre Nabé pour la réalisation. Les podcasts Tout savoir sur sont à retrouver sur le site rtl.fr, sur l'appli RTL et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.